Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Coster, le fondateur et président du groupe Boba Plus, dont l'ambition est de fournir une énergie propre, abordable et fiable aux personnes vivant hors réseau et qui participe aussi à la révolution numérique en Afrique. Salut Alexandre, est-ce que j'ai tout dit ?
Quasiment, oui.
Alors, le quasiment ne me suffit pas. Tu vas devoir aller plus loin.
Effectivement, l'objectif, c'est de travailler sur l'accès à l'énergie, au digital. On parle beaucoup de révolution digitale en Afrique. Faut-il déjà que les gens soient équipés ? Et puis, pour utiliser le digital, il faut aussi accessoirement de l'énergie pour pouvoir le recharger. Donc, on voit effectivement beaucoup de jeunes start-up et entrepreneurs africains qui font des applications assez fabuleuses sur tout ce qui est e-éducation, e-santé, e-agriculture. L'Afrique est même souvent en avance sur ces choses-là. On voit sur le mobile payment, hein, puisque l'Afrique est devant pas mal d'autres pays sur le continent européen là-dessus. Mais ces applications-là visent effectivement essentiellement le monde rural qui est encore trop peu desservi par le réseau électrique. Et donc, d'où vient l'idée d'amener des solutions indépendantes qui fonctionnent au solaire individuel pour pouvoir équiper chacun de ces foyers et du coup de pouvoir y associer du digital pour utiliser tout ce qui est éducation et autres. Et je disais quasiment parce que ce qui est assez intéressant, c'est que je vais en parler après, on a des systèmes de financement pour les rendre accessibles, puisque c'est ça qui va rendre le modèle assez intéressant. Et en fait, en payant ces kits solaires ou ces accessoires digitaux, donc téléphone, tablette et autres, ils vont se créer un premier historique de paiement. Et ces populations-là sont également exclues du système bancaire. Donc, n'ont pas accès au crédit, alors que pour tout développement économique, qu'on soit une toute petite entreprise ou qu'on soit un groupe du CAC 40, on a besoin d'avoir accès à du financement. Et donc, finalement, en payant ces systèmes solaires ou digitaux, ils vont se créer cet historique qui va après permettre d'être scoré et donc de leur donner accès, s'ils le souhaitent, à travers des partenaires financiers, à du financement pour pouvoir développer leurs activités agricoles ou autres dans zone rurale.
Alors, pour ne pas se faire tout de suite taper sur les doigts, on parle d'Afrique, on en a parlé juste avant. Vous ne couvrez pas, bien sûr, tout le continent africain.
Non, non.
Il faut quand même
Effectivement, l'Afrique, c'est 54 pays. On a souvent tendance à généraliser. Donc, Boba Plus ne travaille pas sur l'Afrique, mais sur le continent africain. En l'occurrence, depuis le départ, dans 4 pays, on vient de lancer 2 nouveaux pays. Donc, on est au Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Madagascar. Et tout récemment, on est en train de lancer le Nigeria et la RDC Congo.
Et ça doit être compliqué quand même, il y a quand même des disparités entre tous ces pays.
Tout à fait, que ce soit culturel, économique, même au niveau des infrastructures ou des géographies à l'intérieur, et j'ai même envie de dire même météorologique, parce qu'il y a des zones aussi, on va prendre le Sénégal ou le Mali où c'est beaucoup plus aride, on va prendre des zones comme le Côte d'Ivoire où les saisons des pluies sont très très fortes, très très longues, et donc ça engendre beaucoup de difficultés sur le. Nous, on fait ce qu'on appelle les anglophones du last mile distribution. Donc, on va jusque dans les villages organiser
kilomètre.
La distribution. Exactement, le dernier kilomètre.
J'ai bossé en retail, donc ça me parle pas
et,
mal.
Et en zone rurale, surtout dans des endroits éloignés en fonction des saisons, ça complexifie aussi beaucoup les choses. Donc, clairement, d'un pays à l'autre, que ce soit nos produits, notre organisation de distribution, est assez différente et on s'adapte en fonction de chaque pays.
Donc, tu as plein de filiales un peu implantées dans chacun des pays.
Exactement.
Avec des groupes différents qui vont traiter différemment les.
Chaque pays a son siège, donc souvent basé dans la capitale. Un pays, c'est à peu près une centaine d'employés, avec une direction générale, financière, etc. Et après, plus des équipes par zone, par région, pour couvrir l'ensemble du pays. C'est une entité à part entière, hein, dans chaque pays, et elles se gèrent. Après, au niveau groupe, on est une toute petite holding, en fait, qui finalement est plus là pour faire travailler sur le financement et lever de fonds, bah, justement, pour investir dans le développement de ces pays-là. Et quelques équipes groupes, puisqu'on essaie quand même, il y a des choses qui peuvent être faites de façon groupe plutôt que de les démultiplier un dans chaque pays, notamment tout ce qui va être finance, data, RH et autres. Donc on a quelques politiques groupes, mais chaque pays après développe son propre réseau de distribution et son activité.
Et comment est-ce que tu as eu cette idée-là, en fait?
Alors moi, j'ai travaillé, j'ai vécu pendant, juste après mes études, je suis parti au Sénégal, en Afrique.
Donc, tu as commencé là-bas aussi, je pense. C'était le Sénégal au début.
C'était le premier pays,
ouais,
en
fait. Ça allait être ma question, ouais. Mais je me suis deviné, là. Question pour un champion.
Pour ne pas mentir, beaucoup de gens choisissent les pays où ils vont entreprendre en fonction d'études de marché et autres. Moi, bon, les trois premiers où j'ai ouvert, c'est trois pays où j'ai vécu.
Donc,
c'est beaucoup plus facile que plutôt que d'arriver avec son sac à dos en terre inconnue, si je puis dire. Donc, effectivement, on a commencé par le Sénégal où j'ai vécu pas mal d'années. Après, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu à Madagascar. Donc, c'était des pays que je connaissais déjà bien. J'avais travaillé par ailleurs dans l'éducation, parce que j'avais créé la première école de commerce franco-sénégalaise à Dakar, justement, juste après mes études. Où j'ai découvert et l'entrepreneuriat et le Sénégal, pour ne pas dire l'Afrique. et de là, après, j'ai travaillé dans la microfinance, où associé à plein de finances, donc avec Jacques Attali, pour développer des réseaux.
Qu'on a eu dans l'empreinte aussi.
Tout à fait, que j'ai écouté. Où on a effectivement développé des réseaux de microfinance dans différents pays en Afrique. Moi, j'ai vécu pendant 15 ans dans différents pays. J'aimais bien partir souvent un peu dans les villages, en zone rurale et autres. Encore aujourd'hui, dans la plupart des zones rurales, les gens n'avaient pas accès à l'électricité. Je voyais tous ces jeunes, du coup, qui fuient le monde rural pour se retrouver en ville où ils n'ont pas forcément d'opportunités qui les attendent. Et c'est vrai que l'accès à l'énergie est quand même le premier élément pour pouvoir développer économiquement des activités. Et donc, je me suis dit, après pas mal d'années à la microfinance, je me suis dit, j'ai envie de faire un petit peu autre chose. Et je pense que l'accès à l'énergie, que j'ai rapidement associé au digital pour avoir encore plus d'impact, est venu assez naturellement.
En fait, c'est un cercle vertueux. De toute façon, l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner.
Et puis derrière, intervient j'en ai parlé, l'accès au financement. Et en fait, on se rend compte que plein de choses peuvent se relier. Là, on travaille avec des sociétés qui font la micro-assurance pour les agriculteurs en zone rurale. Et en fait, notre actif, comme on développe une connaissance et un lien et ce réseau du dernier kilomètre en zone rurale, ça peut amener beaucoup, beaucoup de choses en fait, auprès de ces gens-là, à partir de la connaissance, des data qu'on a à travers eux. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est assez virtueux, amener plein de nouvelles choses au-delà que juste l'énergie, le digital et la finance.
Et donc toi, aujourd'hui, tu vis à Paris ou tu vis toujours là-bas?
Non, je suis rentré depuis 2 ans en France pour des raisons familiales.
Ça te manque pas?
Si, mais j'y retourne très régulièrement.
Je sais pas si en cette période, d'ailleurs...
J'ai réussi ici, là, justement, pour des raisons impérieuses, comme on lançait justement le Nigeria et des choses aussi à régler au Sénégal. Il en dépendait aussi du développement de l'activité, donc j'ai pu me rendre là... ces dernières semaines au Nigeria
et au
Sénégal.
Et ça n'a pas trop impacté d'ailleurs l'activité, la pandémie?
On a eu beaucoup de chance. Ce qui a plus impacté, ça a été le Covid en Chine, qui a géré pas mal de... Parce qu'on travaille avec des sociétés norvégiennes, américaines, mais la production des panneaux solaires se fait essentiellement en Chine. Et là, il y a eu beaucoup de retards, de délais avec la pandémie. Mais après, une fois que les produits étaient sur place, au contraire, on a eu une forte demande. On a beaucoup collaboré avec les gouvernements qui nous ont beaucoup appuyés, qui nous ont considérés comme services essentiels pour que nos équipes puissent continuer à aller de région en région. Les gens se retrouvaient... Il faut imaginer que dans les villages, les gens vivent essentiellement dehors et le fait qu'ils soient confinés ou bloqués, et en plus sans électricité, c'est quand même assez problématique. Et à travers le digital, on a même développé une application pour nos clients, du coup, pour éduquer sur les gestes barrières et autres. Donc les gouvernements nous ont vraiment aidés à pouvoir continuer. Donc finalement, non, Baobab Plus a continué à croître en 2020 et c'est bien parti pour 2021.
Ça fait du bien d'avoir des messages positifs quand même, de voir que... D'ailleurs, l'Afrique, alors, les pays au moins que tu couvres, comment ils ont été impactés par cette pandémie? Parce qu'on j'ai l'impression que là, on entend moins parler de...
Je pense que les pays aussi... On su très bien gérer rapidement, fermer les frontières, peut-être plutôt que nous. Alors c'est vrai que les signaux d'alerte forts sont arrivés en Europe, mais les pays africains n'ont pas attendu du coup que ça s'aggrave chez eux. Donc ça a aussi limité. Ils ont peut-être plus l'habitude de gérer des pandémies. Donc
en tout cas là-bas, ça.
Donc aujourd'hui, là, il y a de moins en moins de gestes. Alors après, encore une fois, ça dépend des pays. Ce sera pas la même chose entre le Sénégal ou Madagascar où il y a aujourd'hui encore. Des restrictions avec des cas, ça va, ça vient. Mais globalement, ils sont au niveau de l'activité. Après, ce qui va les toucher beaucoup, ça va être économiquement, surtout dans les pays qui sont dépendants du tourisme. Je prends des pays comme Madagascar, par exemple, ou Sénégal, où les frontières sont fermées aux touristes. Donc, c'est quand même une grosse partie de la population aussi qui est dépendante de ça. Et puis, d'autres secteurs, forcément, qui sont indirectement touchés. Mais globalement, on voit que les entreprises restent assez résilientes. Et ça, je pense que c'est une des forces de l'Afrique. C'est cette capacité, je le vois même chez les jeunes entrepreneurs, à être assez résilients et à continuer à développer leurs activités malgré le contexte.
Et tu as cofondé la French African Foundation. Tu peux me parler un peu de cette fondation?
Oui, tout à fait. Alors, il y a quelques années, j'avais été moi-même retenu sur un programme de Young Leaders aussi, mais par une fondation qui s'appelait la Fondation Africa France, qui avait été initiée par Lionel Zinsou, mais qui, de cette fondation, depuis, a fermé. Et en fait, on s'est retrouvé quelques jeunes français et africains qui étaient sur Paris de cette promotion. On avait trouvé vraiment le programme génial. En fait, ça permet de rencontrer d'autres jeunes qui soient entrepreneurs comme nous sur le continent africain, mais pas que entrepreneurs. Il y en a qui vont être dans le milieu sportif, culturel, associatif, mais tous avec une forme de leadership dans leur là où ils sont. C'est très inspirant. On a créé des liens très, très forts rapidement avec vraiment cette vision partagée. Je pense que le SOC, c'est quand même cette jeune génération qui vise sur l'économie positive pour demain. Et donc, quand on a vu la fondation fermée, on s'est dit, on va nous-mêmes recréer une fondation créée par les jeunes, pour les jeunes, et faire perdurer ce programme de Young Leaders en toute autonomie. Donc, on l'a créé il y a 2 ans. On a eu déjà une première promotion de Young Leaders. Et là, 2020 a été un peu mis en stand-by. Et là, on revient en force en 2021 avec un programme qui a été lancé, l'appel à candidats vient de terminer, pour sélectionner 100 jeunes Young Leaders. Mais au-delà, ça génère toute une communauté. En fait, on reçoit énormément de candidatures, de gens qui nous suivent. Et je pense que cette jeunesse n'attend plus forcément à travers les gouvernements pour résoudre les problèmes. Pas pour les critiquer, mais ils peuvent pas tout faire aussi. C'est à nous aussi de se prendre en main et on arrive bien mieux à faire les choses à deux que tout seul. Donc, c'est aussi l'idée de créer ce réseau de jeunes qui sont déjà une forme de leadership et potentiellement avec de l'influence, que ce soit économique, culturelle ou autre, dans le secteur dans lequel ils évoluent, pour se rassembler et essayer de faire changer les choses.
Et puis essayer peut-être d'inspirer aussi les autres.
Et voilà, parce qu'après, il y a des témoignages et autres. Et puis je pense que ce qui nous rassemble aussi, et c'est peut-être plus que même la génération de nos parents, c'est que les problématiques que pouvaient avoir les gens en Europe ou en Afrique il y a 50 ans étaient très différents. Aujourd'hui, moi, quand je discute avec mes amis au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, on a les mêmes craintes sur les enjeux climatiques, aujourd'hui sanitaires.
C'est important de le rappeler souvent. On se dit, c'est peut-être pas leur préoccupation, mais en fait, c'est bien.
Tout à fait. Mm. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec les mêmes défis communs. Et je pense que ce qui fait qu'il faut davantage rassembler la jeunesse, que ce soit sur le continent européen ou africain. Justement pour co-créer, co-réfléchir,
influencer. Cette diversité culturelle permet aussi justement de co-construire des choses avec une valeur ajoutée bien plus forte, je pense.
Et exactement, je pense qu'on est de plus en plus une génération aussi qui a grandi quand même dans l'interculturalité, même si on voit aujourd'hui les problèmes qui continuent en France. Mais moi, je crois beaucoup que justement, les problèmes de racisme ou autres qu'on peut encore voir sont souvent liés à la méconnaissance de l'autre. Et je pense que plus on connaît l'autre,
la peur,
moins on en a
parfois,
peur.
C'est ça,
et donc voilà, bien sûr, c'est souvent la peur qui génère exactement. Et donc créer aussi ce programme-là, ça permet aussi de progresser certaines frontières, de mieux se connaître, de découvrir. Moi, je vois plein je suis à la fois dans des réseaux d'entrepreneurs en Europe et en Afrique et je vois qu'ils travaillent sur les mêmes choses, mais autant essayer de créer des ponts justement pour co-créer et réfléchir ensemble.
Quels sont les prochains enjeux, les prochaines ambitions du groupe Baobab Plus ? Est-ce qu'il y a des nouvelles ouvertures dans d'autres pays ou d'autres pays en Afrique, puisqu'on sait quand même qu'on reste sur le continent africain ?
Ouais. Alors bon, là, les deux nouveaux pays qu'on ouvre ne sont pas des moindres. Hein. Nigeria et RDC Congo, c'est les plus gros pays d'Afrique. Donc,
c'est peut-être ça déjà le prochain challenge, voilà,
On a déjà pas mal de boulot avec ces deux nouveaux pays.
Et comment tu sélectionnes les pays, en fait ? C'est aussi intéressant parce que tu pourrais... qu'est-ce qui te dit, tiens, je vais aller sur ce pays-là, sur ce territoire-là ?
L'idée, c'est de voir des pays déjà où il y a des problématiques d'accès à l'énergie.
Je pense qu'ils ont un peu... Il y en avait pas mal qui avaient...
Oui. Après, de façon assez hétérogène, là où effectivement, il y a des pays, on va prendre comme le Kenya, où il peut y en avoir beaucoup, mais il y a déjà beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui travaillent sur cette problématique-là. Là où en RDC, il y en a encore très peu, parce que c'est un pays qui est un peu plus complexe. Baobab Plus, même si on est au Nigeria, à part le Nigeria, on est globalement sur des pays francophones, donc on a aussi une culture francophone, et donc la RDC facilite aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est mes équipes qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Madagascar, les expatriés quand on ouvre des nouveaux pays, que ce soit ceux d'autres pays, donc ça facilite aussi le fait que ce soit la même langue. Et puis, et un énorme pays où il y a une population encore énorme qui n'a pas accès à l'électricité sur laquelle on veut travailler.
Est-ce qu'on a oublié des choses ou est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant de conclure cet épisode ?
Non, pour finir, rebondir sur la dernière question, je pense que les enjeux futurs sur lesquels on réfléchit, effectivement, c'est... Je parlais du digital, de créer une forme de gateway pour rassembler toutes les innovations autour du digital, comme je le disais, moi je crois beaucoup à la révolution digitale en Afrique autour de l'e-éducation, l'e-santé, l'e-farming, qui est nécessaire vu l'organisation géographique et la distance, etc. Et je pense qu'ils peuvent faire ce saut technologique comme ils l'ont déjà fait pour le mobile money. Donc, de rassembler un peu ces solutions-là et de servir un peu de gateway pour le pousser à travers vers nos clients. Et dernier point, c'est un sujet aussi, c'est la mobilité qui se pose en Afrique, un enjeu important. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité partagée. Là, aujourd'hui, je suis venu en trottinette, on la prend quelques minutes et on repart. Je pense que c'est des solutions qui peuvent être très adaptées au monde rural en Afrique. On pourra avoir un peu des mini-camionnettes électriques qui peuvent se recharger sur des hangars solaires. Les gens n'ont pas forcément les moyens ni le besoin de posséder un véhicule à plein temps. Mais quand ils ont besoin d'aller sur les marchés pour livrer des choses ou des marchandises et autres, peuvent le prendre pendant une heure pour aller à l'autre village ou sur un marché.
Tu es en train d'inspirer tous les jeunes entrepreneurs là, qui vont nous écouter, qui vont se dire « Oh là là, il faut qu'on aille en Afrique, il y a plein de trucs à faire ». En fait, c'est ce que tu entends dire, il y a encore plein de boulot là-bas.
Je passe mon temps effectivement à dire que il faut oser l'Afrique. On parle beaucoup aussi, il y a des projets aujourd'hui qui se mettent en place pour la diaspora aussi présente en France. On voit de plus en plus de gens de la diaspora qui veulent entreprendre en Afrique. Et je les incite, il y a encore beaucoup de choses à faire et sur des modèles en plus économiques qui sont intéressants. On peut tout à fait associer l'impact à la rentabilité, donc à la durabilité d'une entreprise. Et c'est ce que fait Baobab Plus aujourd'hui.
Merci Alexandre.
De rien, merci à toi.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi intéressants qu'Alexandre, je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.